Chers frères et sœurs, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous invite à réfléchir, à méditer sur les attitudes qui doivent être celles des enfants de Dieu, notamment celles qui concernent l'accueil. L'accueil mutuel dans une communauté, mais aussi l'accueil de personnes que le Seigneur met sur notre chemin. Dans l'Évangile, il est question de trois catégories. Premièrement, l'accueil de prophètes, les hommes de Dieu. Deuxièmement, l'accueil des hommes justes. Et troisièmement, l'accueil de petits qui sont des disciples. Chaque fois que nous le faisons en qualité de ce qu'ils sont, c'est-à-dire en qualité de prophètes, en qualité d'hommes justes et en qualité de disciples, la parole de Dieu dit « cet accueil est accompagné d'une récompense ». Chaque accueil a une récompense. La parole de Dieu nous montre en fait un principe naturel. L'accueil, c'est comme une semence. Quand nous la jetons en terre, nous allons cueillir. Non plus la semence que nous avons jetée, nous allons cueillir de fruits, nous allons cueillir de fleurs, nous allons cueillir autre chose différemment de ce que nous avons jeté en terre. L'importance de l'accueil, dans la Bible, l'accueil. Aujourd'hui, c'est cet accueil dont il est question. Avant de commenter vraiment l'accueil dans le sens biblique, je voulais d'abord raconter une histoire qui m'est arrivée. J'étais encore dans mon pays, jeune prêtre, vicaire dans une paroisse, et on m'avait donné la responsabilité de m'occuper des ouvriers. Je m'occupais des ouvriers, je m'occupais de la maintenance de la maison de notre presbytère. C'était un grand bâtiment qui a été laissé par le père jésuite et qu'il fallait entretenir. Et je m'occupais de la paye des ouvriers. Alors voilà, un beau jour, c'était la nuit, en pleine nuit, un homme vient frapper à la porte et il me dit, voilà, je viens de la capitale, plus de 500 kilomètres de voyage. Alors, il est venu pour inscrire son fils dans une de nos écoles catholiques, une école de garçons. C'était une école très réputée. Alors, bien réputé, donc, cet homme voulait que son fils vienne étudier loin de la famille pour avoir une bonne éducation. Et il y avait un pensionnat aussi à côté. Alors, il est venu donc la nuit, il ne connaissait personne. Alors là, je lui demande, si tu as mangé? Il dit non. Je suis allé avec lui, il était tard, le cuisinier n'était pas là. Alors, je me suis débrouillé, je fais des tranches de pain, je fais du lait pour lui. Et puis finalement, il a pu manger, je fais des omelettes. Ne vous méfiez pas, c'était vraiment très très bon. Bon, enfin, non, c'est lui qui m'a dit que c'était très bon. Alors, je fais des omelettes, et il a mangé. Et après, je suis allé lui montrer sa chambre. J'ai préparé une chambre pour lui, il a dormi. Et le lendemain matin, il est allé à l'école. Moi, je suis allé m'occuper des travailleurs. Il a inscrit son fils, et il a cherché un moyen de déplacement pour retourner. Et il est parti, je ne l'ai plus revu. Donc, l'histoire termine là-bas. 2 années plus tard, je voyage pour l'Europe. À mon retour, je ne retrouve pas mes bagages. On me dit, voilà, on va chercher. On cherche sur Internet, pardon, par ordinateur. On n'arrive pas à retracer où étaient partis mes bagages. Alors on me dit, voilà, vois ce numéro. Tu vas appeler tous les jours. Si on retrouve tes bagages, on va te demander de venir les rechercher. Et puis ce jour-là, j'ai appelé, on me dit, voilà, tes bagages sont arrivés. Alors, comme c'était dans la capitale et qu'il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de gens qui peuvent facilement prendre avantage, un ami m'a dit, je vais t'accompagner parce que seul, on peut te voler même tes bagages dans le moyen de transport. On a pris un moyen de transport en commun, un autobus. Mais avec la surpopulation qu'il y a dans la capitale, c'est-à-dire, les gens sont coincés. Alors, imaginez que les gens, à un arrêt, les gens doivent descendre. C'est-à-dire, nous qui étions juste vraiment au bout de la porte, on devait d'abord descendre pour laisser ceux qui descendaient à cet arrêt-là et puis reprendre notre place. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pendant ce temps, il y a des gens qui entrent de l'autre côté. Donc, on avait la possibilité de perdre notre place alors que nous avions déjà payé. Donc, c'était tout un problème. Et là, finalement, moi, j'ai pu entrer. Mais quand mon ami voulait entrer, le chauffeur commençait déjà à fermer la porte hydrauliquement. Et là, mon ami a presque forcé à pousser la porte pour se faire un passage et pouvoir entrer. Mais en faisant ce geste, je ne sais pas, les pièces qui étaient en bas ont presque déchiré les talons d'un gars. Mais le problème, ce n'était pas ça. Ça peut arriver un accident pareil, mais ce n'était pas n'importe quel gars. Vous le regardez, des cicatrices sur tout le visage, sur la tête, dans les cicatrices partout. Les yeux tout rouges, on voyait déjà que c'était un bagarreur. On voyait déjà que c'était un gars de la rue. Il était habitué à se battre, à se faire blesser. Et il portait des traces de ces bagarres sur le corps. Et là, il nous a regardé et dit, il nous a dit, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. On a commencé à avancer, il commençait à nous menacer pendant tout le trajet. On arrive à destination, au centre-ville, on descend, il descend avec nous. Là, il commence à menacer. On voit, il sort de sa poche quelque chose, mais en fait, c'était du chanvre. Il commence à fumer pour s'exciter. Il commence à fumer. Et là, la dernière étape, quand il a terminé, il écrase le mégot, le dernier qui restait. Il commence à recueillir le sang qui jaillissait du talon de son pied. Et il commence à se frotter les mains. En fait, c'était le dernier signe pour commencer la bagarre. Il savait qu'on était à deux, mais ça ne lui faisait pas peur parce que lui, il était habitué à se battre. Et voilà que, juste en ce moment-là, quand il s'est préparé à nous affronter, j'entends quelqu'un qui m'interpelle. Bonjour, monsieur l'abbé François. Je me tourne, je dis bonjour. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, voilà, nous sommes en train d'aller à l'agence, j'ai perdu mes bagages, j'ai raconté toute l'histoire de mon voyage et puis l'incident qu'on venait d'avoir. Le monsieur était en voiture, il est sorti de sa voiture, il a regardé le monsieur et puis il dit, bon, ok. Il me pose la question, est-ce que vous me reconnaissez? Je dis, pas du tout. Alors là, il me raconte, il y a 2 ans, j'étais venu chez vous, vous m'aviez accueilli il y a 2 ans. Vous m'aviez nourri, vous m'aviez logé. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous dire merci. Et Dieu merci, voilà, j'ai l'occasion de vous remercier parce que j'étais parti, je devais retourner. Et là, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui raconte la chose. Il dit, bon, okay, écoutez, continuez votre chemin, je vais m'en occuper, je l'amène à l'hôpital. Et je vais prendre soin de lui. Il a pris le gars, il l'a mis dans sa voiture. Et quand il a commencé à rouler, j'ai dit, excusez-moi, je voulais demander son nom et son adresse pour aller lui dire merci à mon tour. C'était trop tard. Il était venu juste au bon moment, au bon endroit, dans une circonstance où j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour venir me tirer de là. Mais qui Dieu m'a envoyé? Quelqu'un que moi j'avais accueilli 2 ans avant. On ne récolte pas dans la même saison qu'on a semé. Il y a une saison pour semer, il y a une autre saison pour récolter. Et parfois dans notre vie, il y a des gens qui vont récolter ce que d'autres ont semé. Il m'arrive souvent que mon neveu qui est au Congo m'appelle parce qu'il porte mon nom. Il va dire, voilà, il y a telle personne que j'ai rencontrée qui m'a aidé vraiment dans la démarche que je faisais. Il m'a dit que toi, tu l'avais aidé dans telle circonstance. C'est moi qui ai semé, mais c'est lui qui récolte. Il y a des choses comme ça, d'autres vont récolter parce que quelqu'un qui porte le nom a fait du bien. Il a accueilli et d'autres récoltent. Ça, c'est la loi de la semence. Et le Seigneur est en train de nous dire cela. Tout le bien que nous faisons dans notre vie, d'une façon ou d'une autre, ne tombe pas dans l'eau. Il y a une récompense quelque part. Une récompense à un moment donné. Peut-être c'est pas nous qui avons le recevoir, mais peut-être quelqu'un de notre qui va jouir et qui sera dans un moment ou dans une circonstance où il aura besoin de telle personne ou de telle aide. Mais parce que nous avons fait du bien à cause de nous, la personne pourra bénéficier aisément du bien que nous avons semé. L'accueil, c'est très important, chers frères et sœurs. Et c'est de ça que la parole de Dieu parle. Nous voyons dans la première lecture, la Bible dit une femme, elle était riche, mais elle n'avait pas d'enfants. Dans la tradition juive, c'était un problème. Le fait de manquer des enfants, c'était comme une malédiction. Malgré son bonheur, malgré sa richesse, il y avait quelque chose qui n'allait pas parce qu'elle était comme maudite. Et voilà que elle accueille maintenant. Elle dit, ce serviteur de Dieu vient tout le temps ici, nous allons l'accueillir. D'abord, ils ont commencé à lui donner à manger et après, ils ont vu qu'il venait toujours par là. Ils ont dit, on va lui préparer une chambre haute. On a mis un lit, une tablette, un fauteuil et puis finalement des lampes pour s'allumer en retrait pour qu'il puisse se reposer et faire sa prière. Ils l'ont fait sans attendre quelque chose en retour. Ils avaient déjà tout, ils étaient riches, ils étaient comblés sur le plan matériel. Mais regardez comment la première lecture termine, une promesse. L'homme de Dieu dit, il demande, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme qui m'a tellement fait du bien? Et son conseiller lui dit, cette femme est ici, ça fait longtemps, elle a toujours désiré avoir un enfant, malheureusement, elle n'a jamais eu la chance d'avoir un enfant. Et l'homme de Dieu qui était un prophète, il prie Dieu et dit, l'année prochaine, à la même saison, tu porteras dans tes bras un bébé. Et si vous suivez, vous lisez l'histoire qui a suivi, effectivement, cette femme est tombée enceinte et elle a eu un bébé. L'accueil qu'il a réservé au prophète, à l'homme de Dieu, a eu une récompense, pas au même moment, mais une année après. Parce qu'on ne récolte pas au même moment qu'on sème. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. D'où l'importance, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas improviser cet accueil. Ça doit devenir une attitude du cœur. Nous devons apprendre d'abord, dans nos maisons, en famille, apprendre à nous accueillir dans la vérité. Nous devons apprendre, dans notre communauté chrétienne, apprendre à nous accueillir dans la vérité et dans l'amour, dans la charité. Apprendre à nous accueillir. Quand nous développons l'accueil entre nous, alors ça devient une disposition, une habitude, et nous devenons capables d'être attentifs aux autres et capables d'accueillir les autres. Et pour terminer, cette femme a accueilli cet homme comme parce qu'il était un homme de Dieu. Et je pense que nous pouvons nous aussi préparer une chambre dans notre vie, dans notre cœur. Une chambre pour le grand homme de Dieu qui est Jésus-Christ, qui vient tout le temps nous visiter. Il est tout le temps dans notre vie, Jésus-Christ. Nous pouvons nous aussi dresser une chambre dans notre cœur, un endroit où il peut vivre en paix, il peut venir habiter en nous, demeurer en nous, se reposer dans notre cœur sans être troublé par tout ce qui trouble Jésus, le mensonge, la colère, les tensions, de tout ce qui vient, en fait, les rancunes, ce sont des choses qui viennent troubler la paix de Jésus-Christ dans notre cœur. Mais nous pouvons l'accueillir, préparer notre cœur pour qu'il devienne comme cette chambre haute que nous réservons uniquement pour Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous voulez m'aimer et si vous voulez préparer un endroit pour moi, vous devez m'aimer plus que votre père, plus que votre mère, plus que votre fille, plus que tout. Aimer Dieu dans notre cœur, lui réserver une place et faire en sorte qu'il puisse demeurer en paix. Ça prend vraiment des attitudes de bonté, ça prend des attitudes vraiment de bonnes attitudes. Nous allons prier aujourd'hui en cette fête, alors que le monde se réjouit en cette fête du Canada qui a commencé depuis hier. Il y a des gens qui ont semé. Des gens qui ont sémé pour que nous soyons en paix aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices. On me raconte souvent, il y a des parents, des grands-parents qui étaient à genoux chaque soir en train d'invoquer Dieu dans leur maison. Ils priaient tous les jours. Ils priaient tous les jours, parfois simplement le chapelet, mais pour invoquer la grâce de Dieu sur ces pays. Voilà pourquoi on peut le reconnaître dans l'hymne national. Quand nous disons justement l'épée d'abord, ensuite la croix, mais aussi des valeurs dans lequel sont trempés en fait toute la vie de ce pays, mais des valeurs aussi, de tremper de foi. La foi est partie prenante de l'édification de ce pays. Il y a des gens qui ont sémé leur sacrifice, il y a des gens qui ont versé leur sang, il y a des gens qui ont fait des compromis pour que finalement nous soyons ensemble, pour que ce pays soit un grand pays, pour que ce pays soit un beau pays, pour que ce pays soit un pays paisible. Il y a des gens qui ont sémé de leur temps, de leur talent, de leur intelligence, de leur amour, pour que nous puissions hériter tous ensemble de ce qu'eux, ils ont semé. Alors nous avons une responsabilité de continuer à prier pour ce pays. Nous avons une responsabilité de continuer à prier pour les responsables, les dirigeants de ce pays. Et nous avons une responsabilité pour continuer à prier aussi pour notre Église en ce jour. Cette Église, le Canada, l'Église canadienne consacre le Canada à la Vierge Marie, comme encore pour renouveler cette alliance entre le paix et la foi et la croix, cette alliance entre les valeurs humaines et la foi chrétienne. On va consacrer, nous voulons nous unir à cela et nous allons prier nous aussi pour que notre vie tout entière devienne le témoignage de cet amour sur lequel nous voulons bâtir ce pays et sur lequel nous voulons bâtir nos relations réciproques. Amen.